يا إله الكون قد أسلمت لك يا إله
Comprendre l'islam. Une émission présentée par Malika Lafer, Kamel Shekat et Saïd Boutarfa. Réalisée par Youssef Nejimi.
Amis auditeurs, bonjour, monsieur Shekat, bonjour.
Bonjour.
Nous parlerons donc la propreté dans l'islam et son importance. Alors l'importance de la propreté en islam ne fait aucun doute bien sûr. Ce qui prime pour le musulman et la musulmane, c'est la purification intérieure, celle des cœurs et de l'esprit.
Absolument.
Mais il n'en reste pas moins, le respect de l'hygiène a également donc un statut particulier.
Absolument. Bukhari et Muslim rapportent d'après Abu Hurayra radiyallahu anhu que le prophète alayhi salatu salam a dit « La foi comporte un peu plus de 70 ou de 60 branches. La plus élevée est la proclamation de foi, qui consiste à dire qu'il n'y a d'autre Dieu que Dieu et que Mohammed est le prophète ou le messager de Dieu. L'iman ou bid'un wa sittuna ou bid'un wa sab'una shu'batan a'laha la ilaha illallah ou bien qawlu la ilaha illallah. » Le prophète alayhi salatu salam a ensuite dit la pudeur est l'une des branches de la foi. Donc nous, ce qui nous intéresse c'est la deuxième partie de ce hadith, le degré le moins élevé, pas le moins important mais le moins élevé, est le fait d'ôter de la voie publique ce qui peut nuire aux passants. Cette exhortation à garder la terre dans l'état originel dans lequel Dieu l'a créée, c'est-à-dire pur ou purifié, est plus que souhaité en islam. Le problème, c'est que nous avons beaucoup plus tendance actuellement à prôner ou à choisir un islam qui est plus ou moins facile. Beaucoup de ceux que je connais, par exemple, vous diront que l'important, c'est la purification intérieure, comme vous venez de le souligner.
Et l'aspect extérieur aussi qui est
bien
important.
Bien sûr, beaucoup justement prennent ce type de hadith comme argument pour négliger tout l'aspect qui concerne le paraître, la propreté et tout ce qui s'ensuit. Il est vrai que Muslim rapporte d'après Abu Huraira que le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inallah la yanduru ila suwarikum wa ajsamikum, walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum » Dieu ne regarde pas vos corps, vos paraîtres ou bien vos vêtements, mais il regarde beaucoup plus vos cœurs et vos actes. Ceci est bien vrai. Mais n'oublions pas que le prophète alayhi salatu wasalam a instauré tout un système qui privilégie la propreté. Par exemple, si vous revenez dans le droit musulman même, au tout début de l'islam...
Déjà
vous,
dans la prière, hein,
oui,
s'il y a une exigence.
Il y a la purification rituelle. Il y a aussi, comme je le disais tout à l'heure, au tout début de l'islam, vous trouverez des hadiths dans lesquels les compagnons du prophète vous diront c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on mangeait quelque chose qui avait été mis au contact du feu, quelque chose qui a été cuite sur un brasier par exemple, les compagnons du prophète étaient dans l'obligation de refaire les ablutions. Alors qu'actuellement, nous savons tous que pour refaire ces ablutions, il faut se retrouver dans un état d'impureté, majeur ou mineur. Et un autre hadith vous dira c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on mangeait, qu'on consommer de la chair de chameau, on était obligé de refaire ses ablutions. Ce sont des hadiths qui étaient valables à un certain moment, mais qui ne le sont plus. On ne les pratiquait plus. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, l'hygiène corporelle a pris place dans les mœurs et dans les habitudes des gens, à telle enseigne qu'on n'avait plus besoin justement de ce type de hadith. Mais ça, c'est pour vous dire que l'islam a toujours favorisé justement l'hygiène dans tous les domaines et à toutes les étapes de...
Monsieur Shekat, alors l'une des premières choses que le prophète alayhi salatu wasalam a enseigné aux gens est la propreté, la santé des corps, la beauté, la fraîcheur, relève donc des aspects auxquels l'islam a accordé un soin particulier en considérant qu'ils font partie donc de la substance même de son message. Alors que se passe-t-il ? Est-ce que nos imams n'arrivent pas à faire passer ce message ?
Écoutez, la propreté est un acte civique, c'est aussi un acte citoyen qui exige une certaine maturité et qui engage beaucoup de responsabilités. Il est là le problème. Comme je le disais tout à l'heure, moi je vois dans la rue des gens portant des khamis qui sont carrément sales. Et ces gens-là, si vous allez leur parler de l'islam et de ce que devrait être un musulman, du moins en apparence, eh bien, ces gens-là, vous sortirez une multitude de hadiths qui iraient beaucoup plus dans le sens de l'hygiène intérieure, de la purification du corps. Et ces gens-là oublient,
pourtant
par exemple,
c'est compatible.
Oui, oublient un hadith rapporté par Muslim d'après Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, où le prophète, alayhi salatu wasalam, a dit « La yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi mithqalu darratin min kibr » n'entrera pas au paradis celui qui a dans son cœur le poids d'un atome d'orgueil. Et quelqu'un a dit à ce moment-là « On aime pourtant avoir un bel habit et de belles chaussures. » Et le prophète alayhi salatu salam a dit « Dieu est beau et aime la beauté. Inna allaha jamilun yuhibbul jamal. » L'orgueil, c'est le fait de ne pas accepter une vérité venant des autres et de les mépriser. C'est ça l'orgueil. Et donc, il est tout à fait normal que des gens normalement constitués soient portés sur la beauté physique. La chose est innée en nous. Et tout ce qui est inné, nous sommes censés le maintenir tel que Dieu l'a créé, tout simplement.
Alors, maintenant, on dit que Allah aime voir les effets de sa grâce sur son serviteur.
Inna Allah jamilun yuhibbul jamal wa yuhibbu an yara athara ni'matihi ala 'abdihi. C'est un hadith qui comporte quelques faiblesses dans sa transmission, mais c'est quand même un hadith qu'on peut utiliser dans ce que nous appelons en langue arabe fada'il a'mal. D'autant plus qu'il s'agit là d'un domaine qui est encouragé par l'esprit même de l'islam. Quand vous avez les moyens d'être propre et d'être bien entretenu, eh ben vous êtes censé utiliser ou mettre à profit tous ces moyens pour paraître propre et pour paraître bien entretenu.
Alors tout à l'heure, je vous ai dit le rôle des imams, justement, le vendredi, qui ont un rôle donc important. C'est aussi dans les plusieurs hadiths prônent donc la propreté. Et est-ce que le message n'est pas assez diffus? Est-ce que le message n'arrive pas? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils ont un rôle important, les imams, le vendredi.
Oui, mais les imams, ils en parlent. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, il est beaucoup plus facile.
Pas avec insistance. Il manque des lois autour de ça.
Il faudrait des lois, justement.
Il faut des lois.
Parce que nous allons tenter de voir comment résonne même l'islam. Vous lisez par exemple sourate Al-A'raf, verset 56. Dieu dit « Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha » ne se met pas la dégradation sur terre après qu'elle ait été réformée. Vous avez d'autres versets qui vous montrent que Dieu a tout créé selon une mesure bien déterminée. « Inna kulla shay'in » Khalaqnahu biqadar, dans sourate Al-Qamar, nous avons créé toute chose selon une mesure. Et cet ordre divin, nous sommes censés le préserver. Toute personne qui tente ou qui fait quoi que ce soit pour porter atteinte à cet ordre divin va se mettre en infraction avec Dieu parce qu'elle est en train de détériorer une propriété divine qui est la terre, qui est cette terre dans laquelle nous vivons. Et nous avons là une multitude justement de hadiths qui nous montrent que tout est fait pour garder la terre sous sa forme originale, naturelle et saine surtout. Par exemple, vous avez une multitude de hadiths qui vous dit, par exemple, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, ne commettez pas d'excès, Dieu n'aime pas ceux qui commettent des excès. Dans d'autres versets, par exemple, dans sourate l'Isra, wa ati dal qurba haqqahu wal miskina wa ibn as-sabil, wala tubaddir tabdira, innal mubaddirina kanu ikhwana ash-shayatin wa kana ash-shaytanu li rabbihi kafura, ne sois pas prodigue car les prodigues sont les frères des démons et le démon a été ingrat envers ton Seigneur. Le prophète alayhi salatu wasalam s'est adressé une fois à Sa'd ibn Abi Waqqas, selon ce que rapporte Ibn Majah et d'après Ibn Omar, et le prophète alayhi salatu wasalam lui a dit « Tu gaspilles trop d'eau ». Sa'd lui demanda « Comment pouvait-on être excessif dans les ablutions ?» À quoi le prophète répondit « Ne gaspille pas l'eau quand bien même tu te trouverais près d'un cours d'eau. » C'est-à-dire que même si vous êtes en train de faire vos ablutions…
On la trouve dans la première sourate, dans la sourate Al-Baqara, l'eau, c'est une richesse à laquelle il fallait faire…
Une richesse qu'il ne faut pas gaspiller. Donc même si vous êtes devant un cours d'eau ou bien au bord d'une rivière et que vous faites vos ablutions, devant cette quantité immense d'eau, ne gaspillez pas l'eau.
Mais c'est ce qui se passe, tout parce ça, que dans les oued, maintenant, on jette les ordures.
Il est là
tout
le
ça,
problème.
C'est,
il est
je
là
crois qu'on ne cessera jamais de dire que, qu'est-ce qui se passe. On ne va pas dire autre chose.
Un autre hadith. Mousselim rapporte d'après Jabir, que le prophète a dit, toutes les fois qu'un musulman plante un arbre et qu'un être humain, une bête ou un oiseau en mange, il se voit inscrire autant d'aumônes jusqu'au jour de la résurrection. Dans une autre version, toutes les fois qu'un musulman plante un arbre, il se voit inscrire une aumône pour tout fruit qu'on en mange, même ce qui est volé ou ce qui s'en perd est compté pour lui comme une aumône. Là, nous sommes dans des hadiths qui vont au-delà même de la propreté. Je cite un hadith aussi qui fait référence. L'imam Ahmed rapporte d'après Anas radiallahu anhu que le prophète a dit « Si l'heure dernière arrive alors que l'un d'entre vous voit dans la main une bouture, s'il peut la planter avant de se lever, qu'il la plante. » Non seulement nous sommes censés prôner ou privilégier la propreté et tout ce qui est sain, mais l'action ne doit pas s'arrêter là. Nous devons nous projeter dans une logique de mouvement. Nous ne sommes pas censés être des gens saints, salihoun. Nous sommes censés être des réformateurs, muslihoun. C'est-à-dire qu'il faut toujours œuvrer dans le bon sens, dans un sens qui favorise tout ce qui est bien et tout ce qui est beau.
Alors, Monsieur Chekat,
Et ça, ça demande beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. Et le problème, c'est que les
autres... efforts créent des lois.
Oui, le problème, c'est que quand vous parlez, ces hadiths que je viens de vous citer, beaucoup de gens, quand ils les entendent, ils vous disent « Oh, mais je roule le gouer ». Et non, c'est pas sur le guer, c'est vraiment un esprit qui marche à la bonne musulmane.
C'est ça.
C'est l'islam qui nous a appris ça, pas les occidentaux. Alors, on a tendance à assimiler tout ce qui est beau et bien à l'Occident et on oublie une grande partie de notre histoire
et notre civilisation
malheureusement.
Alors, M. Chekat, à propos d'islam, dans aucune autre religion philosophique ou idéologique, sauf celle donc de l'islam, on trouve une attitude face à la nature, à l'univers. Alors, plusieurs sourates dans le livre saint commencent avec le serment, par les cieux, par la lune, le soleil, les étoiles, la nuit, le jour, les arbres, les animaux. Cela donc a pour but de faire connaître, entre autres, les grandes valeurs de ces éléments.
Hein? Ce sont là autant d'éléments qui favorisent la méditation, qui favorisent la réflexion, je dirais même la cogitation. Cet effort de réflexion est une obligation en islam, c'est une obligation religieuse. D'où l'intérêt de tout préserver, de tout garder intact, comme au jour où Dieu a créé toutes ces choses qui nous entourent. Le fait de maintenir la vie ne fait pas que la maintenir, il la perpétue. On ne fait pas que maintenir la terre telle qu'on devrait la maintenir ou dans l'état dans lequel on devrait la maintenir, mais il faut aussi la transmettre aux générations futures. Ce sont là des actes, des mouvements qui génèrent la vie. Et c'est pour cela que...
Mais c'est plein de prévoyance parce que nous voyons, par exemple, moi qui ai l'occasion de visiter un peu l'Algérie, alors, les gens jettent leurs ordures dans les ouèdes. Et les ouèdes vont, ils se jettent vers la mer. Et la mer, aujourd'hui, il n'y a plus les poissons. Et donc, on ne pourra plus... la mer qui était nourricière, aujourd'hui, se retourne contre nous. Et tout ça, il faut peut-être le comprendre. Et c'est simple.
Là, il y a aussi une part de responsabilité qui va retomber sur les pouvoirs en place, tout simplement.
Oui.
Vous savez, Othman al-Affan disait « Inna Allah yaza'u bisultani ma la yaza'u bil Qur'an ». Dieu fait en sorte que certaines choses bougent, entre guillemets, dans le bon sens, par la loi ou par la force de la loi, plutôt que par le Coran.
Regardez Copenhague aujourd'hui, on panique, on est là, on se rencontre et c'est la terre qui va se retourner contre nous.
Absolument, absolument. Alors. Parce qu'elle a un pouvoir de régénérescence qui a été consommé, ça y est.
Oui.
tout simplement.
Monsieur Shekhat, Dieu a mis 6 jours pour créer l'univers et l'homme.
Bon, alors les 6 jours dont parle justement le Coran, on ne sait pas si ce sont des jours terrestres de 24 heures ou 6 périodes de durée indéterminée. Ce qui est sûr, c'est
que... En tout cas, l'homme est venu en dernier.
L'homme est en train de tout saccager, ça c'est sûr. Ça c'est certain. Face à cette crise, face à cette sonnette d'alarme qui est tirée, je dirais à bon escient, parce que certains sont en train de faire de la surenchère, comme quoi non, les choses ne sont pas aussi alarmantes qu'il paraît. Ce qui est important pour moi qui suis musulman, c'est que tout ce qui peut favoriser la vie, tout ce qui peut la perpétuer, tout ce qui peut la transmettre aux générations futures devient par extension une obligation religieuse, une branche parmi les différentes branches de la foi. C'est un commandement religieux. Ne semez pas la dégradation ou ne corrompez pas la terre après qu'elle ait été réformée. L'islam est allé dans, quand vous me parliez tout à l'heure de loi, l'islam a commencé par l'encouragement. Par exemple, vous trouverez chez Bukhari un hadith rapporté d'après Jabir ibn Abdillah radiallahu anhuma, où le prophète alayhi salatu salam a dit: quiconque a mis une terre en valeur, elle lui appartient, à condition bien sûr que cette terre soit un bien vacant, bien entendu. Mais ce que nous appelons en langue arabe « hiya al-mawat », toute personne qui met en valeur une terre, cette terre devient la sienne par décret.
Oui.
C'est-à-dire que chez les premiers musulmans, tout a été mis en œuvre pour favoriser l'action qui est bénéfique autant à l'individu qu'à la société. Et le problème, c'est qu'actuellement...
C'est-à-dire que même face à sa propriété, il n'est pas...
Bien sûr. Si vous, maintenant même, il y a même ce que nous appelons...
Il est destructeur. Hein.
Si vous détruisez vos propres biens, eh ben, l'État, l'hakim, dans la loi musulmane, et les autorités sont en droit de séquestrer vos biens, de vous les enlever pour que vous ne les détériorez pas. Donc, tout est fait en islam, en religion, tout est fait pour qu'il y ait propreté, pour qu'il y ait beauté. D'ailleurs, la civilisation musulmane, ce qui la caractérise le plus, selon de grands penseurs et de grands orientalistes, je me réfère en l'occurrence à ce livre du développement intellectuel de l'Europe, où l'auteur parle justement de beauté, de magnificence dans la civilisation musulmane. À Cordoue, il y avait des rues avec l'éclairage public, il y avait les rues étaient pavées, il y avait beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de signes ostentatoires qui montrent que c'était des gens qui étaient portés sur la beauté, sur le raffinement.
Alors, que se passe-t-il? C'est la question que l'on se pose. Faudrait-il faire appel aux sciences humaines, c'est-à-dire à des psychologues ou je ne sais pas qui, pour savoir pourquoi l'homme aujourd'hui, il se détruit et il détruit ce qu'il y a autour de lui?
Les imams ont beaucoup de travail à faire.
Oui.
Mais l'État aussi, non seulement par les lois, par des textes qui régissent le comportement, mais aussi par la force même de l'ordre, doit aussi montrer un peu plus de présence.
Alors, la propreté est l'une des bases de la civilisation, de l'hygiène, et permet donc de préserver tous les bienfaits dont nous jouissons, Monsieur Shekhat.
Absolument.
En tout cas... merci.
Je vous en prie.
Avant de nous quitter, je voudrais rappeler à nos amis auditeurs que vous pouvez donc nous écrire et poser donc des questions. Je vous rappelle l'adresse. Donc c'est comprendre l'islam en un seul mot @algerian-radio.dz. Merci et à vendredi prochain.
الله لنا دايم الله لنا دايم الله مولانا دايم الله مولانا انظروا العربي مولاي محمدي انظروا المصطفى نبينا نبينا حارس القيامة مولاي محمدي الشفاع في الأمة مولاي محمدي دايما الله مولانا دايما الله مولانا نبينا 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 صلي وعليه عربي العربي العربي صلي وعليه نبينا 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 صلي وعليه العربي 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 صلي
Thank you.